je me suis levé ce matin, j'ai cru que c'était gagné. La voix était revenue et la voix repart. Alors je vais y aller doucement pour commencer, comme à chaque réunion. Je voudrais vous remercier pour votre attention, parce que je sais que c'est très pénible d'écouter quelqu'un qui a la voix dans l'état où je l'ai. Cela dit, je voudrais vous dire la joie qu'il y a eu pour nous à être dans votre communion fraternelle, partager avec vous le conseil de Dieu. Je ne sais pas si nous nous reverrons, et c'est la raison pour laquelle je suis conscient que le message apporté cette semaine a été incisif. Il l'a été comme si je ne reviendrais pas au milieu de vous. Mais il l'a été comme un son de trompette. Dans ce domaine-là, nous avons tracé la ligne essentielle, celle de notre préparation à l'éternité. Nous nous séparons, mais dans ce domaine-là, je suis pur du sang de vous tous. Je pense avoir tracé le conseil de Dieu. Nous vous chargeons de saluer les églises que vous représentez. Sachez que nous continuerons à prier pour vous. Priez pour nous. Je rentre pour repartir. Jeudi, je suis dans la région parisienne, la grande région parisienne, de jeudi à dimanche pour 7 réunions. Après, il est temps que la voix revienne. Nous serons parmi les sédentaires. Merci de prier pour nous. Décidément. Attendez. Je prêche trop longtemps. Et c'est arrêté. Je l'avais vraiment prié. Il paraît que servir un bon repas, c'est permettre aux gens de quitter la table en ayant encore un petit peu faim. Ça vous arrive jamais, quoi. Mais un bon repas, c'est ça. Quand on sort de table, bon, il y a encore un petit peu faim. Alors je ne sais pas si vous partirez en ayant encore un petit peu faim, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu le temps de vous servir tout le repas. On n'en a pas vu la moitié. Il aurait fallu parler de Jérusalem qui est céleste. Elle descend d'auprès de Dieu. Et il y avait beaucoup à dire là-dessus. Elle est protégée. On a parlé des fondements, mais on n'a pas eu le temps de parler de la muraille. Il aurait fallu parler de tout ce qui fait sa richesse et sa gloire, du fleuve qui sort du trône de Dieu, de cet arbre de vie que n'a pas choisi Ève, mais dont vont se nourrir ceux qui sont là-haut pour l'éternité, parce que Dieu va rattraper les choses. Avez-vous remarqué ça? On pouvait manger de l'arbre de vie. Comment ça se fait qu'ils ont choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal? L'arbre de vie n'était pas défendu. Mais quand Dieu place la vie et la mort, l'homme choisit la mort. Mais là-haut, nous nous nourrirons de la vie de Dieu, de la vie éternelle. Alors oui, il y avait beaucoup, beaucoup à dire. Je voudrais terminer ce matin avec le verset 16 du chapitre 21. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Ce que je voudrais vous dire ce matin avec ce dernier point, c'est que la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, est équilibrée et parfaite. Elle a la forme d'un carré. C'est bien évidemment là encore un langage symbolique. 12 000 stades, c'est-à-dire environ 2500 kilomètres de côté. Il faut savoir que l'ancienne Babylone avait la forme d'un carré. Mais quelle différence en taille, en beauté et en gloire avec la nouvelle Jérusalem. Ici, dans ce chapitre, c'est la victoire finale de Dieu. On retrouve le nombre 12, 12 000 stades, et on en a parlé abondamment hier, je ne reviendrai pas là-dessus ce matin. Mais cette nouvelle Jérusalem, on l'a dit, elle parle de nous, c'est nous. C'est l'Église, à ce moment-là, dans la communion de Dieu, dans un monde nouveau. Et cette communion va être totale. Elle va être parfaite dans toutes les directions. Tout sera parfait. Et cette image du carré m'enseigne par le Saint-Esprit une pensée d'équilibre et de perfection. Si vous regardez un carré. En géométrie, on appelle ça une forme parfaite. Les quatre côtés sont égaux. Tous les angles sont égaux. C'est une forme géométrique parfaite. Mais la parole de Dieu va plus loin. Elle ne me dit pas seulement que c'est un carré, mais elle me laisse comprendre que c'est un cube. Parce que la longueur, la largeur et la hauteur sont égales. Et la forme cubique, c'est une forme parfaite. Pour les Grecs, comme pour les Juifs, la forme cubique symbolisait la perfection. Et ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit me parle en ces termes de la nouvelle Jérusalem et de ce que doit être dès maintenant ma vie, parce que je suis en marche vers ces choses-là. On a dit de moi, pas ici, il est trop carré. Je persiste et je signe. Mais j'ai réfléchi à cette douce critique et j'ai regardé un carré. Et je me dis, comment on peut être plus carré qu'un carré? On ne peut pas. On est carré, c'est tout. On ne peut pas être plus carré qu'un carré. On ne peut pas être trop carré. Ou alors, on sous-entend des âneries. Alors, comme j'aime beaucoup explorer les Écritures, je me suis dit, mais est-ce que ce serait la seule fois où Dieu me parle d'un carré dans sa parole? Est-ce que ce serait réservé à la nouvelle Jérusalem? Ou est-ce qu'il y a dans mon Dieu, dans le caractère de mon Dieu, quelque chose de carré? Alors je suis allé explorer ma Bible et j'ai vu que lorsque le Seigneur a donné ses prescriptions pour le tabernacle et en particulier pour l'autel des holocaustes, je lis ceci. Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Et comme si Moïse n'avait pas compris, Dieu précise, l'autel sera carré. Quand je franchissais cette porte faite de toile pour rentrer dans le parvis du tabernacle et que je me trouvais à l'autel des holocaustes, c'est la première étape, je ne pouvais pas aller plus loin sans passer par là, je me trouvais devant un objet impressionnant et carré. L'autel des holocaustes, là où l'on offrait tous les sacrifices, là où le sang coulait en permanence, matin et soir, chaque jour, plusieurs fois lors des fêtes, l'autel était imprégné de sang en permanence, et l'autel des holocaustes me parle de la croix. Et à cette étape-là, Dieu est carré. On ne joue pas avec la sainteté. On ne jongle pas avec le péché. On ne jongle pas avec la pureté. On n'arrondit pas les angles de la repentance. Il n'y a pas différentes manières de se repentir, de se convertir, de naître de nouveau. Tu passes par là où tu es perdu. L'autel était carré. Et il y a dans cette image de la croix le reflet de la perfection de Dieu. Dieu a été parfait dans la rédemption. Voulez la preuve de cela, écoutez-le vers la fin. Tout est accompli, c'est carré, c'est équilibré, c'est parfait. Christ a accompli une rédemption parfaite. C'est tellement vrai que l'Épître aux Hébreux nous dit, il est parfait pour l'éternité. Je n'en avais pas terminé avec ma petite exploration. Parce que je lis un petit peu plus loin dans le livre de l'Exode les prescriptions données par Dieu à Moïse concernant les vêtements du souverain sacrificateur. Et vous savez qu'il y avait sur sa poitrine ce qu'on appelle le pectoral du jugement. Quand il entrait dans le lieu très saint, le Yom Kippour, il portait sur sa poitrine ce pectoral. Et il y avait des rangées de pierres précieuses, différentes les unes des autres, et qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et voilà ce que je lis. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que les fondes. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Il sera carré et double. Que signifie le pectoral du jugement? Christ, mon souverain sacrificateur, après la croix, est entré dans le lieu très saint. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il intercède pour nous. Il est là, dans le lieu très saint, comme l'intermédiaire entre Dieu et moi. Et je suis gravé sur sa poitrine. Il me porte sur son cœur. Tu es gravé, mon frère, sur la poitrine de Christ. Tu es gravé, ma sœur, sur la poitrine de Christ. Tu y es gravé avec tes larmes et avec tes joies, avec tes victoires et avec tes défaites. Tu y es avec tes espoirs et avec tes abattements. Tu y es avec tes soucis, tes préoccupations. Tu es là sur son cœur. Et ce que je suis venu te dire, c'est que le pectoral est carré. Il est parfait. Christ est parfait dans son amour pour toi. Il est parfait dans son amour pour toi. La parole de Dieu me demande d'être rempli du Saint-Esprit afin que je connaisse avec tous les saints quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans la personne de Christ. Le pectoral carré. Et puis, je n'en avais pas terminé dans les galeries souterraines de la mine de Dieu. Parce que je suis arrivé au chapitre 30 de l'Exode, et là, le Seigneur parle d'un objet qui était dans le lieu saint et qui s'appelle l'autel des parfums. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré. Décidément, Dieu est carré. Et l'autel des parfums me parle symboliquement de l'intercession de Christ. Vous savez que les parfums sont souvent mis en rapport avec la prière. Que ma prière soit comme l'encens, disait le psalmiste. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, était dans le temple. À l'heure de la prière, il offrait des parfums, etc. L'autel des parfums dans le tabernacle, je parle de l'intercession de Christ. Et c'est vrai que Jésus prie. C'est son ministère céleste. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Non seulement il te porte sur son cœur, mais il te porte dans son intercession. Il prie pour toi. J'ai bien écouté la prière de Gagou tout à l'heure, qui disait « Je suis un infidèle, mais toi tu demeures fidèle », qui parlait de ses limites humaines et qui rendait grâce à Dieu, conscient que s'il était là ce matin, c'était la grâce de Dieu. Ben, je vous dis que je suis dans le même état d'esprit, parce que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, aucun de nous, aucun, ne serait là ce matin. Je pense que, enfin je ne sais pas si ça se passera, mais si Dieu nous parle de notre parcours sur la terre quand nous serons là-haut, nous aurons l'occasion de tomber à ses pieds et de l'adorer. Parce que certainement plus d'une fois, le diable nous a réclamé pour nous cribler comme le froment. Ça s'est passé dans les sphères spirituelles mauvaises. Nous n'en savions rien, comme Pierre n'en savait rien. Et si Pierre a pu se relever quand il a croisé le regard de Jésus, qu'il est sorti pour pleurer amèrement sur son reniement, c'est parce que Jésus avait prié pour lui. Moi je vous dis qu'au moment de la grande crise, quand Satan a réclamé Pierre, il y a des choses qui se passent dans les sphères spirituelles qui nous échappent. Quand Satan a réclamé Pierre, à ce moment-là, Jésus, avant la croix, était déjà le souverain sacrificateur. J'ai prié pour toi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus a affronté Satan. Ce n'était pas la petite prière pour que Dieu bénisse notre café au lait. Il a affronté Satan en face pour Pierre. Et je suis convaincu qu'il y a des moments où Jésus a prié pour te sauver, pour sauver ton foyer, pour sauver ton ministère, pour sauver ton âme qui était prête de se perdre. L'autel des parfums est parfait. Et ce matin, je veux tourner mes regards vers un Dieu carré. Carré pour l'autel des holocaustes. Carré pour le pectoral du jugement. Carré pour l'autel des parfums. Et décidément, je n'en avais pas terminé. Il y en a des diamants dans les mines de Dieu. Dans le temple de Salomon, le lieu très saint avait la forme d'un cube. L'avez-vous remarqué? À Roi, chapitre 6, écoutez bien. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel, symbole de sa présence, symbole de son gouvernement au milieu du peuple. Le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur. Si je comprends bien, c'était un cube. 20 coudées de longueur, 20 de largeur, 20 de hauteur, c'est un cube. Dieu est parfait dans sa présence. Dieu est parfait dans son gouvernement. Il est possible qu'à certains moments, nous ne soyons pas d'accord avec lui. Mais c'est lui qui a toujours raison.
Amen.
Dieu ne commet aucune erreur. Et le lieu où reposait le symbole de sa présence et de son gouvernement, ce lieu-là était cubique, équilibré et parfait. Je vais aller assez vite, on va terminer. Le Nouveau Testament, vous le savez, a été écrit en grec. Quand il nous est dit que la Nouvelle Jérusalem avait la forme d'un carré, le mot grec employé signifie carré, mais pas seulement. Il veut dire aussi bien assis, solide, ferme, fort, et c'est ce que sera la Nouvelle Jérusalem pour vous. Bien assis, solide, ferme, fort. Et si c'est ce qu'elle sera, c'est ce que tu dois être maintenant. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir participer avec un peuple bien assis si tu n'es pas bien assis maintenant. Je ne vois pas comment tu vas pouvoir être avec un peuple ferme, solide, fort, si tu ne travailles pas à être ça maintenant. Veillons à notre équilibre face aux bizarreries d'aujourd'hui. Même dans certains milieux évangéliques, voire pentecôtistes, travaillons, bien-aimés frères et sœurs, à notre équilibre, à notre bon sens. Développons notre intelligence spirituelle. Et j'aimerais vous dire pour finir, et je vais vous citer des textes, qu'il faut que nous travaillions dans ces trois directions. Permets-moi, Seigneur, d'être ferme. Permets-moi, Seigneur, d'être fort. Aide-moi à aller vers la perfection. Parce que tu es carré. Parce que tu es carré. Et parce que la nouvelle Jérusalem va avoir la forme d'un carré. Alors la fermeté, je laisse parler la Bible, elle prêche mieux que moi. 1 Corinthiens 15, 58, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Inébranlables. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Mais ça veut dire soyez virils spirituellement, ça concerne les sœurs aussi. Soyez des hommes. Soyez fermes spirituellement. Fortifiez-vous. Philippiens chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. 2 Thessaloniciens 2, 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Retenez les instructions que vous avez reçues. N'allez pas vers des bizarreries. Les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et alors qu'il parle des temps de la fin, de la terre qui va être consumée par le feu, des événements terribles qui vont arriver, l'apôtre Pierre dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Seigneur, aide-moi à être carré dans ton état. La force, puisque c'est ce que le mot grec veut dire aussi, la force. Premier épître de Jean. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Nous avons deux pistes de victoire et au milieu un secret, la clé. Première piste de victoire, vous êtes fort. Deuxième piste, vous avez vaincu le malin. La clé, le secret, la parole de Dieu demeure. Nos réunions de jeunesse n'ont pas besoin de devenir des zéniths. Ce doit être des réunions où la parole de Dieu va leur être enseigné, parce que c'est ça qui va faire une jeunesse forte. C'est ça. Nos jeunes ne doivent pas être vaincus par le monde, ni dans leur look, ni dans leur mentalité, ni dans leur façon de vivre. Ils ont besoin de vaincre le mal. Le secret, c'est qu'il faut leur enseigner la parole de Dieu. La parole de Dieu demeure en vous. 2 Timothée 2, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Éphésiens 6, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Est-ce que ça vous intéresse d'être exaucé dans vos prières? Alors je vais vous encourager. Il y a bien des exaucements qui ne dépendent pas de vous, qui ne dépendent pas de Dieu, pardon, mais de vous. Parce que c'est vous qui allez vous-même exaucer vos prières. C'est incroyable, ça, hein? Nous disons à Dieu, fortifie-moi. Et Dieu s'en ciel par sa parole, il dit, fortifie-toi. Alors ça peut durer longtemps, et c'est pas Dieu qui va capituler. Nous demandons à Dieu des choses que lui nous demande. Nous lui demandons de faire ce que lui attend que nous fassions nous-mêmes. C'est à nous qui nous fortifie. Je ne dis pas que Dieu ne nous fortifie pas à certains moments, bien sûr que oui. Mais bien souvent, c'est à nous de nous fortifier, et nous avons tous les moyens de le faire. Dans bien des situations, si tu es faible, c'est la faute. J'ai sais pas pourquoi je vais vous dire ça, aussitôt. Mais supposez que vous ne mangiez pas du tout pendant une semaine. Vous allez perdre vos forces. Si vous êtes faible, c'est de votre faute. T'as qu'à manger. Mais si t'es faible, c'est de ta faute. T'as qu'à manger. C'est tout. Et tu vas voir que si tu manges, ceux qui ont les cachettes, ils vont rien comprendre là. Tu vas voir que si tu manges, tu vas prendre de la force. Et tu vas triompher de l'ennemi. Il reste le perfectionnement. Puisque c'est aussi ce que veut dire le mot grec traduit par carré. Dieu dit, oulala, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. La barre est haute et nous sommes en devenir. Mais il faut que nous avancions. Parce que la nouvelle Jérusalem sera. Alors, dans cette direction-là, il faut être sincère. Il faut d'abord le vouloir et le demander. Paul priait pour les chrétiens. Ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Est-ce que les pasteurs prient pour les chrétiens comme ça ? À ma honte, ça a été plus facile pour moi, pasteur, de critiquer les chrétiens qui étaient sous ma garde plutôt que de prier pour leur perfectionnement. Or, Dieu ne demande pas au pasteur de critiquer les brebis dont il a la charge, mais il les confie pour qu'il les paisse dans les verts pâturages. Et au lieu de critiquer les brebis, nous devons, comme Paul, prier pour leur perfectionnement. Mais nous avons notre responsabilité personnelle. De Corinthiens 13, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous. Je le demande à Dieu et je prends aussi mes responsabilités. Je roule la pierre et c'est lui qui sort la lave. Il met de la boue, mais moi je vais me laver à Siloé. Je donne les 5 pailles de poisson et lui se charge du miracle. Il crée un jardin, mais moi je deviens jardinier en Éden. Ça fonctionne toujours comme ça avec lui. Dieu ne fait pas tout et je ne peux pas faire tout. Donc, je demande à Dieu de me perfectionner, mais je travaille aussi moi-même à me perfectionner. Et puis Dieu a prévu les ministères dans l'Église. Pasteur, docteur, prophète, apôtre, pour, je cite la Bible, le perfectionnement des saints. Au travers des ministères, je peux me perfectionner. Première épître de Pierre, chapitre 5. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Mon Dieu est carré. C'est clair, c'est net. C'est équilibré, c'est stable, c'est fort, c'est ferme, c'est parfait. Et ce Dieu-là veut imprimer son caractère dans notre vie. Je vais conclure avec le verset 22 de notre chapitre de l'Apocalypse, Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis pas de temple dans la vie.
Ah bon?
Il y avait un tabernacle dans le désert. Il y avait un temple du temps de Salomon. Il y aura un temple reconstruit. Et puis, d'un seul coup, dans la nouvelle Jérusalem, plus de temple. Ben non, il y a une raison. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et son temple ainsi que l'agneau. Il est tout pour moi dans la nouvelle Jérusalem. Il est mon temps. Il est le lieu où réside toute mon adoration, tout mon service, tout mon amour, toute ma consécration, le don complet de ma vie pour l'éternité. Ce serait bien que dès maintenant, nous n'allions pas à la salle de réunion, à l'église. Je vais à l'église. Ah bon ? Mais l'église, c'est nous. C'est pas à la salle, l'église. C'est nous. La preuve, c'est que quand il va y avoir la nouvelle Jérusalem, où tout va être arrivé à perfection, il n'y aura pas de temple, l'agneau sera notre temple. Et Paul en était arrivé là. Avant l'heure, il était déjà Paul, la nouvelle Jérusalem. Christ est ma vie. Christ est ma vie. C'est ça quand il n'y a plus de temple dans la ville. Christ et ma vie. Que les guitares se taisent, que les synthés s'éteignent, que les micros tombent en panne, que le pasteur n'ait plus de voix, alléluia. Qu'on boucle nos salles, qu'on n'ait plus le droit de se réunir, qu'on soit obligé de s'organiser en église de maison, de lire la Bible en cachette, de faire des baptêmes en cachette. Il se prépare une alliance entre les grandes religions. J'ai su ça juste avant de venir, avec le vif encouragement du pape François, où il ne sera plus question de faire du prosélytisme, mais de se respecter dans l'évangélisation. Si un catholique, dans ses erreurs, dans son idolâtrie, vient au milieu de vous pour écouter l'évangile, vous aurez l'interdiction d'en faire un vrai chrétien. Il faut respecter le fait qu'il soit catholique. C'est vers ça qu'on va, je vous le dis, la grande Babel se met en place. Il ne faut pas seulement lire la Bible, c'est indispensable, c'est fondamental, mais écoutez ce qui se passe. Vous allez sortir de vos petits besoins, de vos petits soucis. Ouvrez les yeux, il y a des choses terribles qui se mettent en place à grande vitesse. Alors que nous finissions en cellule, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, les femmes ne voient plus leur mari, les enfants ne voient plus leur père à cause de Jésus. Des femmes sont emprisonnés, torturés, battus. On amène nos frères, on les met à genoux, et un gars arrive avec une hache, et décapite mon frère. Et nous, on est là, on dit, c'est là-bas, demain, ça va être ici. Je te le dis, écoute bien, on ne va pas se revoir, mais retiens ça, c'est enregistré, demain, c'est chez nous. Quand tout nos temples. Comprenez ce que je veux dire ? Quand tous nos temples auront disparu, dans quel état serons-nous ? Eh bien, là-haut, il n'y a pas de temple. Et c'est le summum de la joie. Parce que Christ, l'agneau est le temple. Et si l'agneau n'est pas ton temple, je ne donne pas cher de ta vie spirituelle. Si tu es attaché à Jésus à cause des guitares, des synthés, des pasteurs, des chanteurs, de l'ancien, des programmes de l'église, des séminaires en Espagne, si c'est ça qui te tient, je ne donne pas cher de ta peau dans ce qui va. Si l'agneau est ton temple, tu as déjà le caractère de la nouvelle Jérusalem. Et tu vas tenir. Je me dis qu'on ne va pas bien.
termine.
Parce que quand ils allaient bien au premier siècle, ils allaient dans les arènes pour être mangés par les lions. Oui ou non ? On les mettait sur des croix que l'on enflammait pour illuminer les jardins de l'empereur romain. Quand ils allaient bien, Marie Durand a été enfermée 50 ans dans la tour de Constance. Ses frères, ses sœurs de la Réforme, qui ont redécouvert la justification par la foi, ont fini dans les galères. Des jeunes gens ont été brûlés vifs sur les bûchers de Lyon. Quand ils allaient bien, à l'époque où le mur de l'Europe de l'Est n'était pas tombé, on les enfermait dans les hôpitaux psychiatriques et on les faisait mourir. En Chine, ils se convertissent 25 000 par jour. On les enferme dans les prisons et on les tue.
Je me dis, mais alors,
comment ça se fait qu'on va si bien en Europe ?
Vous voulez savoir la raison ? C'est qu'on est mort et qu'on ne gêne pas le diable.
Quand un chrétien, un, gêne le diable, l'enfer se mobilise contre lui. Je vais vous le dire, parce que j'en suis convaincu. Quand un pasteur commence à avoir la vraie vision spirituelle de ce que doit être le message pour l'Église d'Occident et l'Europe, l'enfer se mobilise pour le tuer. Et comme c'est pas la hache, on prend la langue. Et on crie contre lui les pires saletés. Quand une Église commence à prendre le bon chemin, le vrai, la recherche de Dieu, alors l'enfer se mobilise pour la diviser, la morceler, la saccager. Si nous sommes dans un tel confort, il faut nous interroger. Nous ne gênons plus Satan. Dis pas qu'il faut être masochiste et courir au fond des épreuves. Mais je dis le fait que l'enfer ne se mobilise pas plus contre nous, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Christ est ma vie.
Amen.
Que ce soit là la grande piste qui s'ouvre ou après ce séminaire. Seigneur, donne-moi un plus grand amour pour toi et que tu deviennes ma vie. C'est une chose de le dire, de le chanter, de le confesser, mais si souvent c'est pas vrai. Que Christ, tu deviennes ma vie, mon temple. Amen. On va se courber, prier le Seigneur, que Dieu